Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des maternelles. Voilà, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast des maternelles. Aujourd'hui, pour un épisode un petit peu spécial, un petit peu particulier, quand vous allez l'écouter, ce sera sans doute vers la mi-mars 2021, fin mars 2021, ça fera donc un an qu'on a eu droit à ce premier confinement. Et donc, aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de faire le bilan, non pas du confinement et de tout ce qui s'ensuit, mais un an d'accouchement sous Covid. Un an d'accouchement avec les mesures sanitaires exceptionnelles, un an d'accouchement avec les pères plus ou moins accueillis dans les salles de naissance, un an d'un personnel médical épuisé, mais qui néanmoins donne tout. Voilà, je voulais faire un petit peu le bilan, savoir ce que l'on sait aujourd'hui des accouchements sous Covid, des grossesses sous Covid, la question aussi de la vaccination pour les femmes enceintes. Est-ce qu'on peut, oui ou non, se vacciner quand on est enceinte? Pour faire ce bilan, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une maternité qui parlerait au plus grand nombre. Donc je me suis rendu ici, devant la maternité de l'hôpital Louis Mourier. L'hôpital Louis Mourier, c'est à Colombes. Colombes, c'est dans les Hauts-de-Seine. On a une quinzaine de kilomètres de Paris, au nord-ouest. Pour ceux qui ne connaissent pas, les femmes qui viennent accoucher ici sont donc celles qui viennent de Colombes, bien sûr, de Bois-Colombes, d'Asnières, ou encore de Villeneuve-la-Garenne. Je suis venu ici parce que cette maternité, déjà c'est une grosse maternité, un peu plus de 3300 accouchements par an, donc grosse maternité qui en a vu beaucoup des femmes venir accoucher depuis un an bien sûr, mais avec le Covid également, des femmes qui sont venues accoucher avec le Covid, des femmes qui ont été hospitalisées, des femmes même qui ont été en réanimation pendant la grossesse. Je vous rassure tout de suite, cet épisode ne sera pas anxiogène du tout, mais c'est très intéressant de venir ici pour faire le bilan. Maternité de niveau 3, ce qui veut dire que c'est une maternité qui accueille toutes les grossesses, en fait, tout simplement, les grossesses dites normales, les grossesses à risque ou les grossesses pathologiques. Il y a également un service de néonatologie ici. Alors, notre expert qui va commenter un petit peu vos nombreux témoignages de femmes et d'hommes d'ailleurs qui sont devenus parents pendant cette année si particulière, notre expert, c'est le professeur Olivier Picon. Alors, pourquoi lui ? Déjà parce qu'il est sympa, et ça compte. Par ailleurs, le professeur Olivier Picon a été longtemps le référent Covid et grossesse, c'est-à-dire depuis le tout début de cette crise, ça a été lui. Ça a été lui qui était en charge de suivre ce que l'on savait, les études qui tombaient au compte-gouttes. Dans les maternelles, dans la maison des maternelles, il est régulièrement venu, que ce soit au mois de février dernier, au mois de mars dernier, puis pendant tout le confinement, on faisait régulièrement des points avec lui. Il est revenu plus tard. Et c'est quelqu'un qui est très pédagogue et qui est à la fois rassurant, même quand les nouvelles ne le sont pas. Voilà, donc on va faire un bilan avec lui. On va entendre vos nombreux témoignages, certains plus durs que d'autres, évidemment. Et puis, il va nous dire où on en est et les raisons de voir l'avenir avec optimisme. Le podcast des maternelles, saison 2, épisode 2. J'ai accouché en 2020. J'ai accouché pendant le Covid. C'est parti. Professeur Olivier Picon, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup de m'accueillir ici à l'hôpital Louis Mourier. Vous êtes gynécologue obstétricien ici, donc les téléspectateurs des maternelles qui suivent souvent cette émission vous connaissent bien puisque vous êtes régulièrement venu durant toute cette année pour faire des points sur le Covid et les maternités. Aujourd'hui, on enregistre, on est le lundi 8 mars, il est 10h27. Quelle est la situation aujourd'hui, déjà à Louis Mourier, rapport au Covid et aux femmes qui viennent accoucher? Est-ce que vous avez des cas de femmes en ce moment sous Covid?
Oui, on a des patientes actuellement qui sont infectées par le Covid et qui sont hospitalisées. On en a en suite de couches, et on en a encore enceintes, et on en a même une en soins intensifs, qui n'est pas intubée, mais qui est surveillée de très très près. Donc la maladie continue à avoir des effets sur nos patientes actuellement. Et donc il y a eu une pause au moment de l'été, mais après il y a toujours eu régulièrement des patientes infectées. Le plus souvent, heureusement, elles n'étaient pas graves, de temps en temps un petit peu plus graves comme c'est le cas actuellement, mais les choses, on arrivait à les gérer.
Je crois que la grossesse multiplie par deux le risque d'aller en réanimation. On est à peu près sur des chiffres qui sont exacts?
Oui, c'est ça. C'est les études qui comparaient les résultats chez les femmes enceintes versus non enceintes. Et effectivement, le fait d'être enceinte augmente le risque d'avoir besoin d'une ventilation et d'aller en réanimation.
Et alors, malgré ça, ce qui a changé, j'imagine, c'est l'organisation. Depuis un an, moi, je suis arrivé, je me suis un peu baladé dans les couloirs. Je trouve tout c'est plutôt, l'ambiance a l'air plutôt sereine. Alors tout le monde bosse, ça, on sent que personne ne chôme, mais ça a l'air plutôt serein. Je vois la dame à l'accueil qui accueille les gens en disant ça va, vous n'avez pas de symptômes, tout va bien, etc. On ne sent pas de panique, on n'est plus là-dedans.
Oui, on a appris à vivre de façon chronique avec cette maladie. Alors c'est vrai que par rapport au début, il y avait énormément de choses qu'on ne savait pas, donc il y avait pas mal de stress. Maintenant, on arrive à mieux gérer les choses, avoir une meilleure lecture de ce qui se passe. Donc c'est devenu presque une habitude de gérer cette pathologie comme on gère les autres.
La question, ce qui vous préoccupe aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut vacciner les femmes enceintes. C'est vrai que maintenant qu'on a dit ça, c'est-à-dire qu'elles étaient plus à risque, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas les femmes enceintes aujourd'hui ? Vous, vous y êtes très favorable ?
Oui, absolument. Je suis très favorable à la vaccination chez les femmes enceintes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui vaccinent les femmes enceintes et qui les ont mis dans les groupes de priorité.
Oui, notamment États-Unis, elles sont carrément prioritaires. Ouais. Israël, je crois, on recommande au deuxième semestre. Oui. Mais en France, et d'ailleurs dans les pays européens, chez nos voisins, on ne vaccine pas. Pourquoi ?
Alors, parce que, en fait, la gestion qui est faite par la HS est de voir les groupes les plus prioritaires les uns après les autres, et donc elle n'apparaît pas en haut de la liste. Et puis il y avait une peur liée au fait qu'il n'y avait pas d'études spécifiquement chez la femme enceinte, du vaccin chez la femme enceinte. Mais ce que l'on sait, c'est que la façon dont est fait le vaccin, il n'y a aucune raison de craindre quelque effet secondaire que ce soit chez la femme ou chez le fœtus. C'est pas un vaccin vivant atténué comme la rubéole, c'est vraiment des bouts de vaccin, donc il n'y a aucune raison d'avoir quelque inquiétude que ce soit. Et vraiment, l'avantage, il est clair, et je pense que au sein du collège et au sein du GRIG, on est très 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 volontaire pour que le vaccin soit mis le plus vite possible à disposition des patientes, particulièrement si elles ont des comorbidités. On est très content que l'HAS, la semaine dernière, ait rappelé qu'il n'y a pas de contre-indication au vaccin et qu'on peut vacciner les femmes enceintes après avoir discuté et informé sur les avantages que cela peut avoir.
C'est valable d'ailleurs pour tous les vaccins, que ce soit les vaccins ARN messager ou AstraZeneca ?
Oui, absolument. Alors, on privilégie le vaccin ARN messager pour l'instant parce que le vaccin AstraZeneca risque de donner des fièvres un petit peu importantes et on n'aime pas trop que les femmes aient de la fièvre, ce qui va créer un petit peu de stress. C'est pas tellement parce qu'on a peur du vecteur.
D'accord, la raison c'est ça, c'est pour éviter les 48 heures de fièvre.
Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas plus d'études sur le vaccin AstraZeneca que sur le vaccin ARN messager, mais il n'y a pas de raison que le vecteur viral qui fait peur à certains, qui est un vecteur inactivé, donc il ne se réplique pas, qui sert juste à faire rentrer le fragment de virus pour avoir une réaction immunitaire. Il n'y a aucune raison que ça cause quelques problèmes que ce soit.
Pour la jeune femme qui nous écoute en ce moment, qui a un projet de faire un bébé mais qui se fait vacciner demain, est-ce que vous lui conseillez d'attendre quelques mois avant de tomber enceinte ou alors aucun problème ?
Il n'y a aucune raison.
Il n'y a aucune crainte là-dessus.
Il n'y a aucune raison, et comme il n'y a aucune raison d'empêcher une femme qui allaite d'être vaccinée, par exemple.
Ah oui, alors ça aussi pour l'allaitement, il n'y a aucun problème.
Non, il n'y a aucun problème.
Alors, je vous propose qu'on refasse un peu le fil de cette année particulière. Déjà, ça va, vous êtes en forme ? Au bout de cette année-là ?
En forme, c'est beaucoup dire, mais c'est vrai que ça va mieux qu'il y a quelques mois où vraiment on était dans une situation psychologique et physique extrêmement complexe. Là, le fait de vivre de façon chronique avec ça, c'est un petit peu plus simple. Et puis, je dois avouer qu'au mois de mars, avril, mai, comme on ne savait pas du tout ce qui allait évoluer, ce qui est extrêmement stressant, c'est que on est obligé de remettre à jour les protocoles très souvent en fonction de l'évolution des données. Et ce stress, cette absence de lisibilité était très difficile à vivre. Maintenant, on voit un petit peu mieux comment ça se passe quand même.
Alors moi, il y a une émission qui m'a énormément marqué, c'était celle du 17 mars 2020, donc au moment du premier confinement. C'est la dernière émission qu'on fait en plateau dans la maison des maternelles. Et après ça, on est parti pour 2 mois de confinement, nous, donc chacun chez nous. Vous avez continué d'aller travailler à l'hôpital. Et vous étiez le dernier invité à venir donc en plateau. On parlait évidemment uniquement de ça. Je me souviens d'une émission particulière. Alors ça, c'est du détail, mais personne n'était maquillé. Il n'y avait pas la lumière habituelle. Il n'y avait déjà plus personne dans les locaux de France Télévisions. Vous-même, vous étiez arrivé directement de l'hôpital. Je crois que vous avez prêté une veste. Tout ça fait partie du folklore de cette émission si particulière, flippante, mais vous étiez néanmoins rassurant, on va dire à moitié. On réécoute un extrait.
Vous êtes, vous aussi, victime, entre guillemets, de ce dont les gens se plaignent beaucoup, c'est-à-dire que les informations changent, varient, qu'on n'arrive pas, en fait, à avoir des informations claires, mais c'est aussi parce qu'elles changent tout le temps, quoi.
Oui, il faut bien comprendre qu'on est face à un nouveau phénomène, un nouveau virus pour lequel il y a encore pas mal de manque de données sur l'impact réel que cela peut avoir. Une situation nouvelle dans l'organisation sur quelque chose qui est historique et que personne n'a jamais vécu. Donc on navigue à vue, il faut le reconnaître. Après, on a une structure de soins en France qui est faite avec des gradations de niveau d'alerte qui est quand même bien structurée et qui est assez efficace. Et on ne doute pas de la qualité de l'ensemble du personnel hospitalier, quel que soit le niveau, que ce soit administratif, paramédical, médical. On est tous mobilisés et on va affronter ça au mieux. Après, on ne sait pas exactement ce qui va arriver, mais on est au top pour faire face.
Professeur Picon, quand vous venez nous dire on navigue à vue l'an dernier, c'est-à-dire que j'imagine qu'au fond de vous, vous dites faut quand même que j'alarme pas trop les gens, mais vous-même, vous étiez très inquiet à ce moment-là.
Oui, j'étais inquiet. J'étais inquiet, comme tout le monde, parce que c'est une ambiance un peu de veille de guerre, un peu de veille d'un assaut, et on ne savait pas du tout ce qui va se passer.
Votre état d'esprit, c'était ça, dans les hôpitaux, c'était ça?
Oui, c'était ça. Je disais à mes enfants pour plaisanter que j'étais un petit peu comme dans le groupe de Helm la veille de l'assaut, en attendant de voir les trolls qui arrivaient. On ne sait pas ce qui allait se passer, ouais. Comment on allait survivre.
On sait juste que ça va être douloureux, mais on ne sait pas comment.
Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était un petit peu l'ambiance. Et effectivement, mais c'est vrai que d'une part, je pense qu'il fallait trouver le juste milieu entre informer sur les risques qu'il peut y avoir et ne pas mettre tout le monde en panique. Et ça, c'est extrêmement complexe. On le voit dans toutes les interventions médiatiques. Trouver le juste ton est très compliqué. On peut pas dire, mais non, il va rien se passer ou on va tous mourir. Et comme on ne savait pas trop ce qui allait se passer, c'est vrai que c'était très, très compliqué.
On l'entend dans les petites archives. Vous dites, l'hôpital va tenir bon. On a un système de santé qui est fabuleux en France. L'hôpital a tenu bon ?
Oui, il a tenu bon, parce qu'on a un personnel qui est exceptionnel. Après, là, ce que l'on voit un an après, c'est que les personnels sont tous complètement épuisés et qu'on ne peut plus demander maintenant ce que l'on a fait il y a un an, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient de partout, qui étaient volontaires pour aider l'hôpital, qui faisaient des heures à ne plus pouvoir les compter, etc.
Mais qui ne voyaient plus leur famille parce qu'eux-mêmes craignaient pour leur santé.
Ceux qui s'auto-confinaient à l'hôpital, etc. Ça, je pense qu'on n'en a plus besoin d'une part, et d'autre part, les gens ne seront pas prêts à vivre une deuxième chose comme ça.
Tiens, les gens qui applaudissaient, vous, à 20h, ça vous a plu, ça vous est chaud au cœur, ou au bout d'un moment, ça vous énervait, comme c'est le cas de nombreux médecins?
Ah, moi, ça m'a jamais énervé.
Ça vous a jamais énervé?
La première fois que je l'ai entendu, j'ai été assez ému, je dois avouer, parce que c'était assez impressionnant. Puis en plus, je rentrais chez moi, il faisait nuit, et tout d'un coup, j'ai entendu ça, et c'était assez étonnant. D'ailleurs, je l'avais partagé sur les réseaux à l'époque, et c'était assez étonnant, et voilà. Après, on voit que, comme ça se chronicise et plus personne ne le fait,
mais non, on
reçoit encore quand même des mots de soutien régulièrement de tout le monde. Mais c'est vrai que là, ce qui prime, c'est le ras-le-bol par rapport à cette épidémie qui dure et qui dure.
Alors, le premier témoignage qu'on va écouter ensemble, on était le 17 mars avec vous tout à l'heure. Le premier témoignage, c'est Solène. Elle a accouché le 18 mars. Alors, elle raconte très bien l'angoisse des derniers jours où les protocoles changeaient, non pas toutes les heures, mais on va dire tous les jours, et vous allez voir qu'elle a un grand merci pour tous les soignants. Solène.
Bonjour, je m'appelle Solène, j'ai 35 ans et je suis la maman de 3 enfants, dont une petite fille qui est née le 18 mars 2020, soit le lendemain du premier confinement. Donc le contexte était extrêmement particulier pour tout le monde, mais je pense qu'il était aussi plus angoissant encore pour une maman qui allait donner la vie de façon imminente, parce qu'on avait à cette époque aucun recul sur l'impact que pouvait avoir le virus sur un nouveau-né ou sur une femme enceinte. Donc on restait très à l'écoute des professionnels de santé qui nous annonçaient notamment des protocoles qui changeaient très très vite. On a pu s'en apercevoir le 14 mars, jour du terme, on s'est rendu à la maternité parce qu'on n'avait toujours aucun signe d'accouchement imminent. Le monitoring, tout s'est très bien passé, mon mari était à mes côtés. On nous a donc demandé de rentrer à la maison, de revenir le 16 mars pour refaire un point. À peine 2 jours plus tard, cette fois-ci, tout avait complètement changé. La maternité s'était vidée. Mon mari n'avait plus le droit de m'accompagner. Il devait m'attendre dans la voiture. C'était d'ailleurs un moment très difficile qui reste gravé en moi lorsque je l'ai vu partir et prendre le chemin du parking et me laisser toute seule dans cette maternité vide. Je me suis effondrée. C'est aussi à ce moment-là que j'ai compris et que j'avais accumulé beaucoup de stress, d'angoisse ces derniers jours et ces dernières semaines. Donc on a refait un contrôle, toujours pas de signes d'accouchement imminent. Par contre, les sages-femmes m'ont expliqué que comme les protocoles changeaient, au moment où elles me parlent, le 16 mars, mon mari pouvait être présent à l'accouchement, mais 2 jours plus tard, elles en étaient plus très sûres et que voilà, il fallait peut-être, si vraiment c'était important pour moi qu'il soit à mes côtés, comme j'étais en dépassement de terme, pourquoi ne pas provoquer cet accouchement. On en a discuté dans la voiture au retour. J'étais assez triste parce qu'on avait préparé cet accouchement. Comme pour les deux premiers, on souhaitait vraiment un accouchement physiologique. Mais je sais que c'est pas forcément compatible avec un déclenchement. Mais je voulais pas pour autant me passer de mon mari. C'était juste inconcevable. Je le voulais à mes côtés. Donc bon, on a laissé les choses se faire. On est rentrés. Et heureusement, le 18 mars, 2 jours plus tard, le travail s'est mis en place tôt le matin. Donc on est partis. Mais cette fois-ci, le contexte avait encore changé parce que le pays était confiné, le pays était à l'arrêt, donc il n'y avait pas une âme dans les rues, c'était très calme, les routes étaient vides. Un sentiment d'angoisse quand même, hein, un vieux film d'horreur catastrophe autour de nous, mais voilà, on est arrivé à la maternité. J'ai rapidement fait part, j'ai pas eu de difficulté à m'exprimer, j'ai fait part de mes angoisses et de mes peurs. Elles m'ont tout de suite expliqué que mon mari n'allait pas partir, qu'il allait rester avec moi. Par contre, il ne pourrait pas rester ensuite de couche, donc après la naissance, il lui serait demandé de partir. J'ai donc anticipé et demandé en tout cas un retour anticipé si tout se passait bien. La sage-femme qui m'a accueillie a été d'une extrême bienveillance. Elle avait derrière son masque des yeux rieurs, un sourire qui ne se dissimulait pas derrière son masque. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, vous savez, ce que vous êtes en train de vivre, vous pourrez pas le revivre une deuxième fois. C'est un moment formidable, c'est une naissance, la naissance d'un enfant. Faites abstraction du contexte, vivez ça pleinement et vous verrez, tout va très bien se passer. Et j'ai trouvé ça formidable, donc on a pu tenir notre projet de naissance, notre petite fille est née en 4 heures, de manière physiologique, et je crois que c'est vraiment la bienveillance de l'équipe qui nous a permis de faire abstraction de tout ce qu'il y avait autour, et de passer cette naissance magnifique. En tout cas, il faut vraiment avoir confiance en corps médical, en tout cas ces soignants qui sont là, qui savent ce qu'ils font, qui savent avoir les bons mots. Et puis, ne pas hésiter, si tout se passe bien, à demander un retour anticipé.
Voilà, professeur Picon, c'est ce que vous disiez. Les mamans, celles qui ont accouché, j'imagine, ont dû être très reconnaissantes du personnel soignant pendant toute cette année. Les femmes qui ont accouché au tout début du premier confinement, ça a dû être particulièrement angoissant pour elles.
Ah, c'était angoissant pour elle, et puis c'était difficile aussi pour nous, pas autant que pour elle, mais évidemment, le côté psychologique des maternités qui étaient fermées. Hein. Les hôpitaux avaient interdit les visites, ce qui incluait les papas, donc tout ça c'était compliqué pour
c'était
nous.
C'était pas une des choses les plus dures à gérer, ça, le papa.
Oui,
ouais.
Oui, évidemment, d'un point de vue psychologique, c'est évidemment très dur pour elle, et puis pour l'ensemble du médical, parce qu'il faut gérer les explications, mais moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait énormément de femmes qui étaient très compréhensives, qui comprenaient la situation, qui disaient « oui, c'est exceptionnel, on ne sait pas ce qui nous tombe dessus, c'est regrettable, mais c'est comme ça et on fait avec ». Donc ça, c'est vraiment... j'ai plus de souvenirs de patientes qui disent « je suis triste et c'est dommage, mais on comprend et on fait avec ». Et voilà, plus que des gens qui se roulaient par terre de colère ou ce qui aurait pu se comprendre.
Il y a toujours ce petit décalage entre la vraie vie, notamment dans les hôpitaux, et ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais dans les faits, dans les maternités, en fait, la grande majorité du temps, les gens comprenaient.
Oui, absolument. Alors, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a un biais. En général, c'est comme le français aime bien râler. On voit surtout les gens qui râlent sur les réseaux sociaux. Mais non, nous, l'expérience qu'on a, c'est d'abord des gens qui étaient compréhensifs et qui acceptaient la situation comme nous. Parce que c'était pas tellement de notre initiative, c'était pas pour le plaisir d'embêter les gens. Hein. C'est que, à ce moment-là, c'était ce qu'on considérait être comme le plus raisonnable.
Je vais vous faire écouter un deuxième témoignage. Cette fois, c'est d'un papa, Thomas, qui est devenu père le 8 mai. Alors lui, il raconte à la fois le bonheur et la frustration, notamment l'attente sur le parking. Je crois qu'il y a beaucoup de papas qui se sont retrouvés sur les parkings. J'en ai reçu plein de ces témoignages. On écoute Thomas.
Salut, moi c'est Thomas, je suis papa de 2 enfants, Andrea 5 ans et demi et Deva 10 mois le 8 mars. Forcément, elle aura donc 1 an le 8 mai. Et puisqu'on parle de cette date, effectivement, je me souviens comme si c'était hier du 8 mai de l'année dernière 2020, à quelques jours de la fin du premier confinement. Et forcément, ça restera un moment gravé à tout jamais, parce que l'émotion de voir son enfant arriver au monde, c'est quelque chose d'incroyable et d'exceptionnel, mais d'aussi très singulier avec cette situation si particulière, parce que même si le premier confinement, celui qui a duré à partir du 17 mars, avait des airs de fin de règne, malgré tout, les consignes étaient encore extrêmement strictes et que l'incertitude liée à la présence ou non du papa, la manière dont ça allait se dérouler, ont rendu ce moment vraiment très particulier, avec plein de frustration. Voilà, je me souviens, alors évidemment, de l'arrivée à l'hôpital. C'était l'hôpital Bonnet à Fréjus, Saint-Raphaël, où on était confinés et où on n'avait pas forcément prévu d'accoucher. Je dis « on », mais c'est pas moi qui ai fait grand-chose. Évidemment, mon épouse a décidé d'attendre le dernier moment pour se rendre à la maternité, pour justement qu'on puisse rester le plus longtemps possible, parce qu'on savait que ça n'allait pas forcément être le cas lors de notre arrivée à l'hôpital. Et effectivement, ça a été un peu un parcours du combattant. Alors moi, je me mets en retrait, parce que évidemment, c'est ma femme qui a dû subir aussi pas mal de choses, affronter la douleur toute seule, les contractions, et comme elle avait retardé l'échéance pour arriver à l'hôpital, bah forcément, elle a douillé. Et puis moi, je parle de mon expérience, mais c'est vrai que c'est la frustration du papa de ne pas pouvoir être là auprès de sa femme, de pouvoir malgré tout, parce que c'est quand même là l'essentiel, et ça n'était pas forcément le cas quelques jours auparavant, de pouvoir être présent à la accouchement, même si effectivement on m'a permis d'arriver dans la salle d'accouchement, allez, je dirais 45 minutes avant la délivrance. Donc j'ai laissé ma femme entrer à l'hôpital une fois qu'on avait décidé de prendre le chemin, parce que on savait que ça allait quand même se passer et qu'avec un deuxième enfant, faut sans doute être beaucoup plus attentif. Parce que ça peut aller beaucoup plus vite, et ce qui a été le cas. Et donc voilà, moi on avait évidemment la valise de maternité. J'ai laissé donc ma femme aux urgences pédiatriques, arrivée avec un masque, prise en charge, et moi tout seul, sans avoir de nouvelles pendant de nombreuses minutes qui ont paru des heures, des jours. J'avais la valise tournée en rond sur le parking de l'hôpital, en attendant le feu vert pour me permettre d'arriver dans les derniers instants. Juste avant l'accouchement, je me souviens avoir fait des ronds, limite à creuser le bitume, tellement je tournais comme un lion en cage. C'était énormément de frustration, parce que forcément, c'est des moments qu'on a envie de partager pleinement avec sa femme, d'être là, de l'accompagner, de lui parler, de la rassurer, de prendre sa douleur, des choses comme ça. Donc voilà, la situation a fait que malgré tout, c'était pas possible, mais heureusement, parce que j'en ai parlé avec d'autres papas qui n'ont pas eu cette chance-là, parce que ça reste évidemment un bonheur exceptionnel, j'ai pu, dès que mon téléphone a sonné pour me donner le feu vert, courir dans les couloirs vides, évidemment montrer pas de blanche avec un masque en nage pour arriver le plus vite possible dans une salle d'accouchement qui ressemblait à un cordon de sécurité sanitaire où voilà, tout le monde avait des blouses. Moi, évidemment, je n'ai pas quitté mon masque. Ma femme avait un masque aussi alors qu'elle s'apprêtait à accoucher. Heureusement que l'infirmière a compris qu'à ce moment-là, elle avait le droit de l'enlever pour effectuer la poussée, parce que franchement, c'était limite inhumain. Elle avait des fils partout, de la péridurale. Elle avait fait un petit malaise en plus. Donc voilà, elle avait la saturation. Bon bref, elle avait de l'oxygène dans le nez. Donc voilà, j'étais pas très bien quand j'arrive, j'ai limite fait un malaise, et c'est surtout voilà, on a envie de prendre tellement d'informations parce qu'on en a été privé. On voit tout ça, on sait que c'est le moment est proche, on a envie de vivre des émotions, mais finalement on n'a pas le temps. Et tout est allé très vite finalement, du moment où j'ai posé le pied dans la salle d'accouchement au moment où ma fille est arrivée au monde. Il s'est passé, 30 minutes, quoi, à peine. L'histoire de la péridurale avait fait un peu d'effet déjà. Donc ça allait mieux, ma femme était beaucoup plus apaisée. Et finalement, moi, j'ai découvert déjà un environnement que je ne connaissais pas. Et surtout, je me suis préparé psychologiquement à ce que je doive, et c'est sans doute ce qui a été le plus difficile pour moi, partir parce que c'était comme ça à l'époque du premier confinement, partir une heure après la naissance de son enfant. Rien que de dire ça, ouais, je suis ému parce que c'est voilà, c'est pas ce qu'on a envie de vivre, quoi. Ma fille est née, ça a été évidemment un bonheur exceptionnel que j'ai pu partager avec ma femme. J'ai pu la prendre, faire les premiers soins, mais rapidement on m'a raccompagné. Et je me suis retrouvé avec mes émotions, mon bonheur, mais en même temps ma frustration, et c'est, j'étais très triste finalement, tout seul à nouveau, comme avant l'accouchement sur le parking, à pleurer toutes les larmes de mon corps, parce que je pouvais pas être là pour un moment qui marque la vie d'un homme. Je me souviendrai évidemment toute ma vie de cette naissance, ça c'est certain, des conditions également, de ce jour si particulier, mais on a tendance à effacer ça pour se contenter du bonheur qu'on a désormais de vivre en famille, et c'est quand même déjà pas mal.
Voilà, professeur Picon, ce témoignage de Thomas que je trouve très fort, mais vous, il ne doit pas vous surprendre, parce que vous avez dû en voir plein. Des pères comme ça, entre la frustration et le bonheur.
Oui, absolument. Et heureusement, c'est le bonheur qui prime en premier. C'est cela qu'ils garderont à l'esprit. Mais voilà, après, il faut bien avoir à l'esprit qu'on s'organisait un petit peu comme on pouvait, que chaque maternité faisait en fonction de ses locaux, de ses moyens. Et qu'on avait aussi une priorité, c'était de protéger aussi l'ensemble du personnel qui est en salle de naissance, d'où la nécessité de limiter les allées et venues. Et ce qui a imposé des scènes un petit peu comme celle-là, que l'on regrette. Hein, mais
vous avez bien remarqué voilà. Qu'ils ne reprochent rien à personne. Hein. Ben, je crois que la plupart, c'est bien ce qu'on dit, ils sont compréhensifs. Sur l'organisation au niveau national, un an après, est-ce que vous diriez que ça a été assez clair, notamment vous, les consignes que vous aviez, justement pour l'accueil des pères, etc. Au début, il y a pu avoir un sentiment de chacun fait un peu comme il veut. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire, selon vous ? Avoir des consignes.
Alors, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Hein. Une situation comme celle-là, il faudra que l'on se pose et que l'on voit un petit peu ce qui a péché, et ce qui était bien et ce qui était moins bien. Après, quand on donne une consigne nationale, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce qu'elle peut être appliquée à l'échelon local. Donc, si on dit à un moment donné, si on avait pris l'extrême, pas de problème, on vit comme avant, tous les pères rentrent, je pense qu'il y a des endroits où c'était absolument inimaginable, on aurait eu des infections nosocomiales, on aurait été à la catastrophe. Et si on dit, comme au mois de mars, on ferme strictement tout, finalement, il y a des maternités où il y a des papas qui pouvaient quand même venir parce qu'il y avait les locaux qui le permettaient. Donc, trouver le juste milieu, encore une fois, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que finalement, il y a eu à un moment donné des consignes générales, et surtout, vous faites comme vous pouvez en fonction de votre personnel et de vos locaux. Et c'est ça, ce côté, faites comme vous pouvez en fonction de vos locaux, c'était pas un côté débrouillez-vous, c'était un côté essayons de nous adapter. Parce qu'effectivement, l'épidémie, ce n'était pas la même en région parisienne qu'en
Corrèze.
Donc là, effectivement, les organisations pouvaient être un petit peu différentes. Donc c'est difficile de dire à l'échelon national, tout le monde fait comme ça, alors qu'à l'échelon local, des maternités pouvaient s'organiser.
Aujourd'hui, les pères sont admis partout. Là, j'en ai croisé beaucoup en venant. Les échographies, il n'y a plus de... Ici, en tout cas,
oui.
À Louis-Mourier.
La spécificité qu'on a, quand vous avez vu en rentrant, c'est que la salle d'attente n'est pas très grande. Donc, effectivement, ce qu'on demande au papa, c'est d'attendre dehors. Et quand la patiente rentre pour l'échographie, en ce moment, on fait venir le papa.
C'était ça, tous les hommes en bas, là. Je voyais...
Voilà. C'est la queue qui attendait leur tour, d'accord. En fait. Parce que sinon, la salle d'attente, du coup, les gens se retrouvent entassés. Pour éviter qu'ils soient entassés, les papas attendent dehors. Ils rentrent au dernier moment, ce qui permet d'arriver à respecter une certaine distanciation au niveau de la salle d'attente et au papa de participer aux échographies.
D'accord, je comprends pourquoi une infirmière qui est passée me regardait de travers. Elle se disait, mais que fait cet homme dans la salle d'attente au milieu de... D'accord.
C'est ça.
C'était donc pour ça. Je vais vous faire écouter un troisième témoignage. Alors, c'est Eva. Elle a accouché le 9 novembre et quelques semaines avant d'accoucher, elle a eu le Covid. Donc, elle raconte.
Bonjour à tous, je m'appelle Eva, j'ai 35 ans, j'habite en région parisienne. J'ai accouché le 9 novembre 2020 d'une petite fille nommée Liv. Donc j'ai contracté le Covid durant le 8e mois de ma grossesse. J'ai eu les symptômes d'un gros rhume et d'une énorme fatigue avec perte de goût et d'odorat. J'ai pu être soulagée par du paracétamol, en quantité restreinte évidemment. La seule inquiétude des médecins et de la maternité a été de vérifier si j'avais de la température ou non. Donc, vous aurez normalement, si vous n'avez pas de forme grave, à contrôler votre température 2 fois par jour. Moi, pas eu de température, donc je m'estime chanceuse et puis c'est passé. Juste une très grosse fatigue qui reste. Donc déjà, quand on est enceinte, on a tendance vers la fin à être un peu fatiguée. Donc, je vous cache pas qu'en fin de grossesse, avec le Covid, c'était assez fatigant. Voilà. Mais c'est passé quand même au bout de, je dirais, trois semaines. pas eu de complications, pas d'inquiétude pour le bébé quand vous n'avez pas de fièvre et que vous n'avez pas de forme grave.
Professeur Picon, je vais vous faire commenter ce qu'on vient d'entendre, mais d'abord on va écouter Eva toujours, qui cette fois raconte l'accouchement, puis après on commente le tout.
Donc je n'avais plus le Covid. Tout s'est très bien passé. J'étais dans une maternité labellisée Amie des Papas. Donc mon conjoint a pu être là à tout moment, donc pendant le travail, pendant la poussée, ensuite de couche, vraiment tout le temps, tout le temps. Et il a pu faire des allées-venues pour pouvoir faire les démarches administratives, aller chercher ce qu'il fallait à la maison. Donc on n'a pas eu de problème. J'ai dû garder le masque en salle de travail tout le temps que la sage-femme était là. En revanche, quand elle quittait la pièce, j'avais le droit de l'enlever, ce qui est plutôt pas mal. Sachant que j'ai accouché sous péridurale parce que j'ai été déclenchée en urgence. Du coup, je vous avoue qu'avec la péridurale, voilà, c'était pas trop non plus une grosse, grosse contrainte d'avoir le masque et la pièce était plutôt tempérée. Donc j'ai pas eu de difficultés. Par contre, au moment de la poussée, j'ai pu le retirer, ce qui était quand même nettement plus agréable étant donné qu'on passe à la partie, je dirais, un peu plus sport. Voilà, j'ai pu le retirer, c'était très très bien et la sage-femme s'est équipée d'une visière. Pour la suite, évidemment, on n'a pas eu le droit aux visites, mais je vous cache pas que ça nous arrangeait. Et puis, bien garder tout le temps son masque quand une personne rentre ou sort de la pièce, parce que évidemment, il y a beaucoup de monde, même si on n'a pas le droit aux visites, et on a les visites en interne de tout le personnel médical. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, vraiment pour les futures mamans, de par mon expérience en tout cas, que ce soit enceinte et pendant l'accouchement, si vous tombez dans une maternité sympa et bienveillante, n'ayez aucune crainte. Voilà, donc j'espère que mon expérience vous a été utile, que voilà, j'ai pu peut-être vous rassurer face à certaines inquiétudes. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Professeur Picon, Eva, qui a eu le Covid à 8 mois, elle dit que la grosse inquiétude pour tous ces rendez-vous, et notamment pour l'accouchement, était de savoir si elle avait de la fièvre ou pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça change pour vous si une patiente qui a le Covid vient accoucher, qu'elle ait de la fièvre ou pas ?
Je pense que dans cette histoire de fièvre, il y a un mélange entre plusieurs choses, en fait, pour être clair. D'abord, la première chose, quand on se remet en mois de janvier, février, mars, les gens voulaient prendre la température à tout le monde dès qu'ils franchissaient une porte, parce que la fièvre était reconnue comme le signe de Covid. Et en fait, on s'est aperçu après que la fièvre est un signe inconstant. On peut avoir une toux, une difficulté respiratoire sans fièvre. La fièvre chez la femme enceinte, en elle-même, c'est pas tellement très grave, mais surtout qu'il y a des diagnostics différentiels de la fièvre chez la femme enceinte auxquels il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas dire à une femme qui a de la fièvre, c'est un Covid alors qu'elle a une pyélonéphrite ou une infection du liquide amniotique, ce qui est quand même plus grave. Donc il faut bien arriver à prendre correctement en charge une fièvre sans dire, sans passer à côté de quelque chose d'important. Ça, c'est vraiment fondamental. L'autre chose, c'est qu'une fièvre pendant la grossesse, ça peut faire contracter, ça peut entraîner des accouchements prématurés. Voilà. Mais en général, on arrive à gérer correctement ce symptôme.
Quelle est la prise en charge d'une femme qui vient accoucher sous Covid aujourd'hui ?
Qui a le Covid ?
Qui a le Covid, ouais, qui vient accoucher avec le Covid.
Alors, elle va accoucher normalement. Les seules consignes qu'il y a, c'est des consignes d'isolement. L'idée, c'est vraiment de protéger l'ensemble du personnel et d'éviter des infections d'autres malades qui seraient dans les chambres ou à côté. Donc vraiment, ce côté-là est vraiment fondamental. Après, sur l'accouchement lui-même, c'est un accouchement naturel. Et si vous me posez la question pour les masques, puisque j'étais déjà intervenu dans votre émission pour parler de ça, à aucun moment, le collège n'a dit que le port du masque n'était obligatoire pour les efforts expulsifs. Il y a eu une espèce de montée médiatique de gens qui ont dit « on nous oblige à porter le masque ». Alors, il y a peut-être des gens qui, par excès de zèle, forçaient les patientes à porter le masque, et c'est les témoignages que l'on a eus, mais il n'y a pas eu de consigne nationale pour ça, parce que ça paraît effectivement comme les patientes l'ont témoigné. non seulement pas faisable, mais en plus la contrainte est vraiment une très mauvaise chose pour dire les choses doucement.
Ouais. Après, et là aussi, beaucoup de tensions, vous avez raison, il y a eu beaucoup de tensions. Jacqueline Izard était venue expliquer ça, vraiment avec des termes mesurés, je pense que vous le connaissez, le professeur Izard, était venu juste dire, dans l'idéal, si les femmes peuvent garder le masque, nous, ça nous arrange. En gros, il l'a dit comme ça, il s'est fait insulter comme jamais, il n'avait jamais connu ça. Donc il y a quand même une fois encore cette tension.
Il a raison, et c'est aussi un petit peu ce que j'avais dit quand j'avais donné mon avis, c'est que si les patientes peuvent garder le masque, tant mieux, parce qu'il ne faut pas oublier que la sage-femme qui est juste en face, elle a à moins d'un mètre pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et donc le masque va quand même limiter les projections de gouttelettes. Et on sait que la projection idéale, la protection idéale, c'est lorsque les deux portent un masque. Alors évidemment, la sage-femme va porter son masque FFP2 et la patiente qui va accoucher, elle va porter son masque le plus qu'elle peut. Et si elle ne peut pas, on va faire avec. Mais voilà, on a des patientes qui, finalement, pendant une demi-heure d'effort expulsif, vont garder le masque 25 minutes et pas les 5 dernières minutes. Enfin, voilà. En tout cas, on n'est pas... Il serait scandaleux de venir forcer à porter le masque sur le visage comme ça a parfois été
évoqué. Ouais.
Alors, si les patientes le disent, c'est que c'est vrai. Mais c'est évidemment scandaleux. Et ça n'a pas lieu d'être, mais c'est vrai que dans l'idée de protéger la patiente, parce que là on parle d'une patiente qui est infectée, on est dans le cadre d'une patiente qui a le Covid, donc on sait qu'elle l'a.
J'imagine qu'elles sont compréhensives aussi, ces femmes-là, qui ont Covid.
Oui, bien sûr, et il faut vraiment protéger l'ensemble du personnel, et on sait que même lorsqu'il n'y a pas de symptômes, il peut y avoir des patientes qui ont le Covid sans avoir de symptômes. Il n'y a pas toujours partout un dépistage systématique en salle de naissance. En plus, on sait que la PCR peut parfois être faussement négative. Donc, même une patiente qui a une PCR négative ou qui n'a pas été testée, qui n'a pas de symptômes, on va lui demander de garder le masque au maximum. Ça, c'est vraiment très important. Toujours l'idée de protéger le personnel. Mais il faut trouver le juste milieu, c'est toujours ce qui est le plus difficile.
C'est la même sage-femme qui va aller voir une femme sous Covid qui accouche, ou alors pas forcément, on peut tourner comme il n'y a pas de règle particulière?
Non, on essaie de vraiment limiter les personnels contacts autour de la patiente. Alors déjà, de temps normal, je pense que c'est bien que la sage-femme, que la patiente ait une seule sage-femme qui vienne la voir, parce que si on limite les intervenants, c'est quand même plus personnalisé, c'est toujours mieux quand c'est possible. Mais là, encore plus en période de Covid, il faut éviter qu'il y ait le maximum d'aller-retour pour éviter la diffusion.
J'ai une question bête, mais une sage-femme qui aurait eu le Covid, vous ne l'envoyez pas, elle, en priorité, voir les patientes qui ont le Covid, en vous disant, je sais pas, elle est immunisée, donc autant que ce soit elle qui s'occupe des femmes Covid?
Alors, on a pas mal de sages-femmes qui ont attrapé le Covid, mais on n'a jamais réfléchi comme ça, je dois vous avouer.
Ah, ben voilà, je vous donne l'idée pour la prochaine pandémie. Ouais, elle l'aurait peut-être mal vécu, c'est peut-être pas une bonne idée que je vous soumets là. On a évoqué là dans ce petit témoignage d'Eva le masque, donc ça c'est bien, on en a parlé. Les visites. Alors, évidemment, les visites ont été complètement annulées. Je crois qu'il n'y a plus du tout de visites encore aujourd'hui de naissance, à part le papa ou le coparent. Oui. Moi, j'ai l'impression que 95% des messages qu'on reçoit à ce propos-là, c'est tant mieux.
Oui,
en fait, on vit trois jours, on se repose, quoi.
C'est exactement ça. C'est quelque chose dont on avait un petit peu conscience auparavant, puisqu'on essayait quand même de limiter les visites. Mais là, les mamans ou les jeunes papas n'osaient pas trop
dire non à la belle
dire
famille,
non
la famille.
Aux quatre personnes qui arrivaient en même temps. Mais voilà, je pense que les sages-femmes en suite de couche ont constaté que les patientes dormaient mieux, se reposaient mieux, même que l'allaitement était plus facile. Et donc vraiment, s'il y a un bénéfice à cette histoire, c'est ce repos-là en suite de couche qui est mieux vécu, contrairement à ce que certains pouvaient penser. Oui.
Et c'est important de parler des bons côtés, de révéler par cette crise. Tiens, vous en voyez d'autres des bons côtés? Nous, on évoque des fois la télémédecine qui s'est imposée.
Oui, absolument.
Il y a d'autres leviers qui se sont levés là, depuis un an? Alors, dans les maternités,
la télémédecine, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, et je pense qu'on a gagné plusieurs années. Après, il faut que ça rentre vraiment dans les mœurs. Voilà. Après, je pense que le contexte de la maternité, c'est vraiment quelque chose de très très particulier, et il faut peut-être mieux prendre conscience que la maternité dans un hôpital, c'est pas comme le reste de l'hôpital. Donc, s'il y a des règles strictes pour l'hôpital, peut-être que dans la maternité où les gens sont a priori le plus souvent non malade, il faut être un petit peu plus souple. Donc c'est vraiment ça qui est important.
Alors, quatrième témoignage. Celui-là, il est de Céline, sachant que ça a été trop dur pour elle de témoigner. Du coup, elle a demandé à son compagnon, Cédric, le jeune papa, de lire un petit texte écrit par Céline. On l'écoute.
Bonjour, je me présente, donc Cédric Günther, le conjoint de Céline. Je lis le texte à sa place, sachant que elle a beaucoup d'émotions en le lisant, et donc De fait, elle voulait que je le lise. Donc voici. Je suis la maman de Noéline, née en avril dernier pendant le premier confinement. L'accouchement s'est bien passé de façon générale. Pendant longtemps, je lui ai dit de ne pas sortir du ventre car son papa ne pouvait pas être présent pour l'accouchement. Nous avions le projet de ne pas connaître le sexe de l'enfant et pour moi, il était obligatoire que le papa soit là pour m'annoncer le sexe afin de lui donner le prénom qu'on avait choisi ensemble. Après le passage du terme, on a fait des examens tous les deux jours à l'hôpital. À J+4, niveau du monitoring, c'était pas la joie pour la demoiselle et donc on a décidé de me déclencher. Quelques jours auparavant, on nous avait appris le changement de politique de l'hôpital. Le futur papa pouvait être présent pour la dernière partie de l'accouchement, c'est-à-dire les poussées. Il m'a donc laissé à l'hôpital le matin et on s'est dit à tout à l'heure, on croise les doigts pour que tout se passe bien. J'avais envie d'accoucher sans péridurale parce que j'ai une grosse peur des aiguilles. Lorsque j'ai eu les premières contractions, j'ai demandé à une personne en appuyant sur l'interphone un ballon pour les soulager. Je lui ai demandé à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais vu la couleur. J'avais le papa au téléphone et c'est vrai que ça me faisait du bien. Mais je n'avais pas cette présence qui aurait dû être là pour m'aider. Notamment pour découvrir cette nouvelle sensation et aussi à me rappeler les astuces que j'avais oubliées pendant les cours de préparation à l'accouchement. C'est la personne qui est là pour nous soutenir, être notre mentor. Là, ce vide a fait que j'ai craqué. Je n'ai pas réussi à tenir. J'ai demandé la péridurale parce que c'était très compliqué à gérer. Ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui j'avais un deuxième enfant, je ferais tout pour ne pas avoir la péridurale. Cette pause a été d'une souffrance en plus. À la suite de la péridurale, je me suis retrouvé là, dans une pièce inconnue. Au bout de 2 heures, une sage-femme est passée. Elle était très gentille. Elle m'a informé que le rythme cardiaque n'était pas stable, qu'on allait me déclencher à sortir en coupant la poche des os. Enfin, qu'on allait l'aider à sortir en coupant la poche des os. 5 minutes après, j'avais l'impression que j'allais la sortir par les fesses. J'ai appelé la sage-femme, je lui ai raconté mes sensations. Elle a décidé de m'augmenter la dose du produit de péridurale. Elle a quand même vérifié mon col et j'ai ta dilatation complète. Nous sommes non loin de la maternité, environ 20 minutes en voiture. Je suis passé de 4 cm à dilatation complète en moins de 10 minutes. Par chance, mon compagnon était revenu à l'hôpital où je lui avais annoncé que je descendais en salle et il attendait mon appel sur le parking. Heureusement, sinon, il n'aurait même pas pu assister à l'arrivée de sa petite fille. On a pu rester donc tous les trois après la naissance pendant 2 heures. Au moment de remonter en chambre, on s'est dit au revoir, il y a dans 2-3 jours. Le séjour ne s'est pas passé comme prévu. Ma fille a dû faire un tour en néonat pour une surveillance plus accrue. Le séjour s'est passé comme une prison. On ne pouvait pas sortir des chambres, même pour donner les papiers de naissance. J'ai dû passer par les soignants qui l'ont donné à l'accueil, là où mon compagnon les a récupérés. Ça a été des moments assez compliqués, merci à notre génération d'ailleurs d'avoir inventé la visio pour que le papa, mais aussi les grands-parents, puissent voir la petite pendant les 5 jours complets là-bas. Par rapport à la conjoncture actuelle, c'est vrai que lorsque je repense à l'accouchement, je n'en veux pas au personnel. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour se protéger énormément. Mais il est aussi vrai que c'est censé être l'un des plus beaux moments de notre vie. Le passage d'une femme en maman, mais aussi d'un couple en famille. La Covid nous a privés de ce bonheur. En fait, je suis très énervé contre moi-même. Je n'ai pas su m'affirmer sur mes choix. Le manque de mon pilier a fait aussi que j'ai complètement subi cet accouchement. Avec la dose ajoutée de produits de péridurale, je n'ai même pas senti le passage de ma fille. J'ai quand même envie d'un deuxième enfant. Par contre, ce sera quand la pandémie ne sera plus présente. Je choisirai un autre moyen de mettre au monde mon bébé. Je parle de moi, mais ce n'était pas facile non plus pour mon compagnon qui a vu sa fille 2 heures. Il est reparti à la maison tout seul pour se trouver du jour au lendemain à 3. Pour les grands-parents aussi, ça a été compliqué. Ils résident à plus de 200-300 km. Ils ont bien sûr pris le premier train pour nous retrouver après l'annonce de la naissance. Il y a une phrase qui résonne assez fortement dans ma tête quand je repense à tout ça. C'est celle de mon papa pour me dire « Tu penses qu'un jour on aura le droit de voir notre fille, notre petite fille en vrai ?» Ça fait vraiment de la peine et mal au cœur d'entendre ça. Il y a quand même un point positif avec tout ça. C'est que mon papa a pu passer un très long moment avec sa fille. Son congé de paternité a duré plus longtemps que prévu. Et c'est vraiment agréable de passer du temps, juste tous les trois, pour se découvrir et apprendre à vivre ensemble. Merci pour votre écoute.
Voilà pour ce témoignage de Céline, lu par Cédric. Vous en avez d'autres, des femmes que ça a traumatisé d'accoucher dans ce contexte?
Oui, c'est certainement ce que raconte cette dame est effectivement très touchant, parce que le fait de pas pouvoir aller en néonat voir son bébé, le voir que en visio, c'est vrai que c'est regrettable. Heureusement qu'il y a la mise en place de visio avec des systèmes à l'appel Covisio ou les systèmes de casque qui ont permis d'améliorer le lien mère-enfant. Ça, on a, malgré la difficulté, je pense que on a pu faire des choses qu'on aurait pu faire il y a quelques années, et on s'en sort plutôt pas si mal que ça, mais évidemment ces séparations sont toujours regrettables.
Là, vous avez un service de néonat ici à Louis Mourier. Comment ça se passe aujourd'hui pour les parents? Ils peuvent aller et venir aussi facilement qu'ils le souhaitent pour voir leur bébé en néonat?
Non, je me garderais bien de parler à la place des pédiatres, mais il y a les visites qui sont bien contrôlées. Alors effectivement, quelqu'un qui est infecté aura plus de mal à y aller. Il faut pas aller infecter des enfants qui sont de petit poids, etc., et qui sont fragiles. Mais tout est fait pour faire au maximum, pour respecter le lien mère-enfant, ça c'est sûr.
On a trouvé une forme de routine, même dans les services de néonat.
Oui.
Ouais. On va terminer avec le dernier témoignage. Alors, j'allais dire qu'il était un peu plus léger, en fait, pas tant que ça. Mais en tout cas, il se termine bien. Et c'était un peu comme ça que je voulais terminer. C'est le témoignage de Lise. Lise, elle a accouché non pas en 2020, mais en 2021, le 1er janvier, signe du renouveau. Vous vous souvenez, le 1er janvier, on se disait tous, ça y est, c'est derrière nous. Qu'est-ce qu'on est naïf. Donc, Lise a accouché le 1er janvier, on l'écoute.
Je suis arrivée à la maternité avec déjà pas mal de contractions et surtout de la fièvre, hein, car j'avais fait en fait une infection. Ce qui fait qu'en arrivant, ils m'ont fait un PCR afin de vérifier que c'était pas le Covid. Donc par chance, c'était négatif, mais malgré tout, voilà, le masque était obligatoire dans l'hôpital jusqu'à l'accouchement lui-même. Enfin, d'ailleurs, c'est même la sage-femme qui m'a enlevé le masque au moment de pousser, parce que j'avoue que je l'avais complètement oublié. Pour le coup, ça m'a vraiment pas dérangée. Le seul truc qui était un petit peu pénible, c'est ensuite de faire la connaissance de son bébé avec le masque, d'autant plus que mon fils a été en néonat pendant 3 semaines et demie, parce qu'il est arrivé donc prématurément, et c'est vrai que ça met un peu une barrière, hein, en quelque sorte, entre notre enfant et nous. Donc c'est, j'allais dire, le seul point négatif. Sinon, son papa a pu être là en permanence. C'était la seule personne qui était autorisée à venir. En fait, il fallait que ce soit la même personne de l'accouchement jusqu'à la sortie de la maternité. C'était la règle. Donc voilà, notre aîné a pas pu venir. Il l'a rencontré du coup un mois après quasiment, puisque avec la néonate, c'est pareil, les frères et sœurs n'étaient pas autorisés à cause du virus. Donc voilà, ça a été un peu la contrainte de ce moment-là, mais finalement, ça nous a aussi permis de rester un petit peu dans notre bulle et de vraiment profiter, si je puis dire, de ces premiers moments avec ce nouveau petit bébé qu'on entend en bruit de fond. Voilà.
Voilà pour ce bébé né le 1er janvier. On a pu rester dans notre bulle, c'est un peu ce qu'on disait dans les bons côtés. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui ont vécu quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses difficiles d'accoucher dans ces conditions, mais qui sont aujourd'hui hyper reconnaissants du personnel médical. On va peut-être terminer là-dessus. Le personnel médical, est-ce que vous avez été surpris par la mobilisation générale de vos troupes pendant cette année?
Ah oui, absolument. Surpris, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais oui, il y a une mobilisation générale extrêmement importante, et personne n'a rechigné à faire éventuellement modifier son poste, modifier ses heures. Donc il y a une mobilisation extrêmement intense, et sans ça, je pense que la situation au mois d'avril aurait été bien plus catastrophique que ce qu'elle a été. Et donc ça, vraiment, et on a été aussi beaucoup touchés par tous les signes qu'on a reçus de l'extérieur. On a eu des tas de petits gestes qui nous ont fait plaisir, des gens qui nous ont envoyé des colis, des gâteaux, chocolat, du café, des machines à café. On a des patientes qui nous ont offert des fours micro-ondes, on a même une patiente qui nous a offert un nettoyeur vapeur pour désinfecter les chambres, et qui est extrêmement utile. Et voilà, donc plein de petites choses qui nous ont donné du courage. Après, c'est vrai que quand ça fait un an, tout s'estompe un petit peu, on rentre dans une chronique, donc on a moins de signes de remerciements aussi intenses que ce que l'on avait, et puis les gens sont moins prêts, à cause de la fatigue, à repartir au feu comme ça a été le cas, mais il n'empêche qu'il y a toujours une vocation d'aide et de soins qui se manifeste tous les jours et qui est sans faille.
Vous avez commencé en disant que l'an dernier, votre objectif était d'un peu de marcher sur un fil entre ne pas inquiéter et néanmoins dire la vérité, c'est-à-dire qu'on ne savait pas vraiment où on allait. Est-ce que vous avez fait pareil dans ce podcast ? Est-ce que vous avez volontairement tenté de rassurer ? Ou alors là, moi, je vous sens quand même serein, là.
Je suis beaucoup plus serein qu'au mois de mars, ça c'est sûr.
Après, ça c'est clair.
Voilà, donc je pense que là arrive l'ère de la vaccination, la maladie, on la connaît beaucoup mieux.
Puis surtout, vous êtes organisé.
On est bien organisé. Les soins qu'on donne aux patients sont plus adaptés et plus basés sur ce que l'on sait de la maladie et pas des soins un petit peu empiriques. Donc il y a pas mal de choses que l'on fait maintenant que l'on ne faisait pas au mois de mars parce qu'on ne savait pas. Et du coup, il y a moins de gens qui vont en réanimation, il y a moins de gens qui sont intubés, par exemple, parce qu'on arrive à mieux gérer tout ça. Donc je pense qu'on va y arriver, on va aller au bout. Il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on continue à maintenir les gestes de distanciation, ça c'est fondamental. Il faut qu'on continue à faire attention. Il faut que malgré le beau temps qui arrive, on fasse pas n'importe quoi. Et il faut qu'on se vaccine au maximum. Là, je crois qu'il y a une dimension supplémentaire dans la vaccination générale qui est lancée. Et je suis sûr, dans quelques mois, on pourra à nouveau vivre normalement pour longtemps, j'espère. Mais là, ce qui est important, malgré le beau temps et le ras-le-bol, c'est d'arriver à maintenir les distanciations.
Et, un dernier effort, c'est ça que vous dites.
Voilà, un dernier effort. Et vraiment, si je dois faire encore un appel envers les soignants, vaccinez-vous pour vous et pour protéger les autres.
Ah bah disons, peut-être un mot là-dessus. Est-ce que vous voyez des confrères à vous qui refusent de se vacciner ?
Alors, il se trouve que dans notre service, je n'en connais pas.
Ouais. Voilà. Alors, c'est toujours pareil. Quelle est la dimension médiatique qui va montrer du doigt quelque chose de regrettable ? Est-ce qu'il y en a vraiment tant que ça des...
Sur la PHP, je pense que les chiffres officiels sont certainement les bons, c'est-à-dire 30 à 40% de l'ensemble qui sont vaccinés. Je pense que ça va s'améliorer petit à petit, parce que c'est vrai que même dans le personnel soignant, au début, on vaccinait les gens qui étaient les plus à risque, les plus âgés, etc. Là, ça va se généraliser. Et voilà, donc il y a toujours des poches de résistance. On voit très bien que ceux qui ne sont pas vaccinés contre la grippe, ils ne vont pas se faire vacciner non plus contre la Covid. Ce que je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs. Mais c'est la vaccination pour nous soignants, c'est vraiment un geste de solidarité et de protection des faibles que nous devons prendre en charge.
Ça, c'est vraiment fondamental.
C'est un acte médical. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment inciter le plus de soignants possible à se vacciner, c'est évident.
Professeur Picon, il est un peu plus de 11h, je vais vous laisser. Je crois que vous allez en salle de garde cet après-midi.
En salle de naissance.
En salle de naissance, pas en salle de garde. En salle de naissance, vous savez déjà si vous avez un gros programme, non ?
J'ai pas encore regardé.
Vous avez pas regardé. Je suis sûr que ça va bien se passer. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici à Louis Morier. Voilà, un grand merci à Olivier Picon. Me voilà à nouveau pour vous dire au revoir à la porte de la maternité de l'hôpital Louis Morier, donc toujours à Colombes. On l'a dit tout à l'heure, je l'enregistre, là on est le 8 mars, lundi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Il fait très beau, mais il fait très froid. Et du coup, je me demande, mais pourquoi est-ce que tu as voulu enregistrer ça dehors ? Voilà, question personnelle. Merci à Alexandre Ferreira qui monte et réalise, lui, bien au chaud, ce podcast. Merci à Jérôme Caza, à De P2L, toutes les équipes à France Télévisions, Olivier Macron, qui nous permettent de rendre tout cela possible. Dans 15 jours, un nouvel épisode du podcast des maternelles. N'hésitez pas à venir me suggérer sur Instagram si vous souhaitez voir des thèmes abordés. Tiens, il y a un camion qui démarre, je ne sais pas si vous m'entendrez encore. Allez, on le laisse passer. Au revoir, monsieur. Oui, forcément, il se demande ce que fait un gugus au milieu d'un parking qui parle dans un micro. N'hésitez pas à venir me suggérer des thèmes, quels qu'ils soient, que ce soit pour des thèmes qui viennent vous aider très concrètement ou alors des thèmes un peu pour essayer de prendre de la hauteur sur des thèmes de la parentalité. Vraiment, n'hésitez pas. Non pas que j'ai pas d'idées, mais souvent, quand vous me suggérez des thèmes, ils sont très bons. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Et s'il vous a pas plu, bah vous pouvez le partager quand même. Salut tout le monde.